RFI 8h44, à Paris 6h44 en temps universel. Et on passe à la revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À la une, Dadis Camara gracié, justice ou manœuvre politique.
En Guinée, l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara a donc été gracié vendredi pour raison de santé par le chef de la junte, Mamadi Doumbouya. En août dernier, il avait été condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009. Ce jour-là, au moins 156 personnes avaient été tuées par balles, au couteau, à la machette ou encore à la baïonnette, des centaines d'autres blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry, et au moins 109 femmes avaient été violées. Alors évidemment, cette grâce divise l'opinion publique, constate le Djeli à Conakry, et pourrait avoir des répercussions sur la scène politique guinéenne dans les semaines à venir. Pour le site afrique.com, la décision de Doumbouya s'inscrit dans un climat politique déjà sous haute tension, alors que les manifestations contre le pouvoir militaire sont fréquemment interdites et que la presse subit des restrictions. Cette grâce présidentielle est perçue par certains comme un signal inquiétant.
Le site Guinée 7 pousse encore la réflexion et s'interroge. Doumbouya s'est-il engagé dans un chemin de réconciliation ou, sans le vouloir, a-t-il dénoué le fil d'une histoire déjà tragique et pleine de blessures ?
Certains saluent cet acte comme un signe de réconciliation nationale, à l'image du modèle sud-africain où la justice s'accompagne du pardon. Pour eux, la grâce ne constitue pas une négation de la justice, mais plutôt un moyen de tourner la page et d'ouvrir un chemin vers la paix. Mais pour d'autres, pointe Guinée 7, cette décision révèle une autre facette, plus sombre, de la politique. En libérant Dadis Doumbouya, aurait-il cédé à une logique purement militaire ? N'y a-t-il pas derrière ce geste un calcul visant à conquérir une part importante de l'opinion publique, notamment en Guinée forestière, où Dadis conserve un fort soutien populaire ? En tendant la main à ses partisans, Doumbouya chercherait-il à renforcer son pouvoir et à capitaliser sur une loyauté forgée par les épreuves du passé ?
En tout cas, attention, prévient encore Guinée 7, les vieux démons du passé pourraient ressurgir, ravivant des tensions profondément enfouies.
Oui, Doumbouya, en cherchant à apaiser les esprits, n'a-t-il pas mis à nu les contradictions de notre histoire ? S'interroge le site. La promesse de justice, un rêve nourri pendant des années par les Guinéens, est-elle en train de se dissoudre dans l'incertitude ? L'histoire de notre nation continue de se dessiner dans la douleur et les interrogations. Un lion enfermé et blessé a-t-il réellement été dompté ? Ou bien avons-nous seulement ouvert la cage d'un prédateur qu'il sera difficile de maîtriser.
Miséricorde d'Aïd El Fitr ou clin d'œil à un grand électeur s'interroge en écho aujourd'hui à Ouagadougou.
Pourquoi cette grâce doumbouyaïsque, un cadeau en ce mois béni de Ramadan ? Eh bien non, répond le quotidien burkinabé, c'est hors des clous, car la religion prône la justice, la protection de la vie humaine, la paix et le respect des femmes. Ce qui s'est passé il y a 16 ans n'épouse aucun des aspects d'aucune religion. Cette grâce ne sera pas vue sous le prisme d'un acte de miséricorde ou de pardon, mais plutôt comme une prime à l'impunité. Alors, solidarité entre frères d'armes putschistes, cette hypothèse peut se défendre, pointe aujourd'hui, car quoi qu'on dise, à 15 ans de distance, ce qui lie Doumbouya et Dadis, c'est que tous les deux sont entrés dans l'histoire de la Guinée au son de la canonnière. La solidarité de corps existe par-delà les années et les promotions. De plus, se demande encore le quotidien burkinabé, le candidat non encore déclaré à la présidentielle, général Doumbouya, veut-il s'attacher les faveurs de ce grand électeur, nommé Moussa Dadis Camara ? Dans cette Guinée électoralement ethnicisée, ou plutôt baronisée, ce n'est pas impossible. C'est dire que cette grâce présidentielle est calculée, même si elle est inopportune et abjecte. C'est le coup de la justice qu'on a tordu, s'exclame enfin aujourd'hui. On a cantonné les victimes dans un angle mort. Ainsi vont souvent les intérêts en politique.
Dans une demi-heure, Frédéric Couteau, vous revenez pour la revue de presse internationale et à la une, Donald Trump sur le sentier de la guerre commerciale.
Oui, le président américain pourrait annoncer ou confirmer après-demain mercredi des taxes à l'importation record jusqu'à 20%. Et puis nous nous intéresserons également au Parti démocrate. L'opposition américaine encore tétanisée, nous le verrons au travers de la presse, doit se réinventer.
Frédéric Couteau pour la revue de presse.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
À la une, ce lundi 31 mars 2025, les secours poursuivent leurs opérations en Thaïlande et en Birmanie. Trois jours après le séisme qui a fait au moins 1700 morts, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent d'heure en heure. En Israël, malgré le gel par la Cour suprême du limogeage du patron du Shin Bet, Ronen Bar, le Premier ministre nomme ce matin un nouveau chef du Shin Bet, Eli Charvitz, ex-commandant de la marine. Les États-Unis continuent d'asphyxier le Venezuela économiquement et révoquent la licence du pétrolier français Morel et Prom. Ces licences avait été accordé par Washington pour permettre à ces compagnies étrangères de poursuivre leurs activités malgré les sanctions qui pèsent contre Caracas. Et puis en France, l'avenir politique de Marine Le Pen en jeu. La chef de file du RN, parti d'extrême droite, risque 5 ans d'inéligibilité dans le cadre du procès des assistants parlementaires européens du FN. En RDC, les consultations du président Tshisekedi reprennent aujourd'hui en vue d'un éventuel gouvernement d'union nationale qui, pour Kinshasa, permettrait de faire face à l'agression du pays par le Rwanda, qui soutient les rebelles du M23, rebelles qui contrôlent une partie de l'Est et où les affrontements, il y a quelques semaines, ont été particulièrement violents à Goma, dans le Nord Kivu. Si aujourd'hui la situation s'est stabilisée, les humanitaires ont encore beaucoup à faire. C'est ce qu'explique Myriam Favier, chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge à Goma. Elle est notre invitée Afrique et répond à Esdras Dikoumana.
Myriam Favier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Goma, une ville qui est passée sous contrôle de l'AFC M23 depuis fin janvier. Est-ce que la situation humanitaire qui y prévaut aujourd'hui est toujours aussi alarmante que lors de la prise de cette ville ?
Fin janvier, à Goma et aux alentours, il y a eu une escalade de la violence, y compris en zone urbaine, avec une utilisation d'artillerie en zone peuplée. Ça voulait dire effectivement beaucoup de blessés, pas d'électricité pendant quasiment une semaine, donc pas d'eau, car c'est directement lié. Des corps qui jonchaient au sol, tous les hôpitaux et les structures de santé en suroccupation. Donc la situation humanitaire était terrible. Je pense qu'aujourd'hui, la situation s'est stabilisée. Pour le CICR, ça veut dire que le point crucial en ce moment, c'est de répondre aux besoins essentiels des gens en réduisant les risques auxquels on fait face.
Alors, vous l'avez évoqué, ces affrontements ont fait de nombreuses victimes civiles. Combien l'avez-vous recensé au CICR ?
On a, avec la Croix-Rouge de la RDC, ramassé des corps, donné à ces corps une sépulture digne. C'était plus de 900 corps qui ont été enterrés par la Croix-Rouge et le CICR. Bien sûr, il y a d'autres victimes. Les victimes, c'est également les blessés. Nos structures de santé CICR étaient à plus de 400% de suroccupation à un moment. Il y a eu plus de 1900 patients soignés depuis le mois de janvier. C'est trois fois plus que ce qu'on a pu avoir sur les années précédentes. Par exemple, en 2022, il y avait environ 600 blessés de guerre.
Que disent donc ces chiffres par rapport à l'intensité des combats ?
On voit que ces chiffres démontrent d'affrontements qui ont été très intenses et évidemment de conséquences humanitaires importantes sur la population, sur les femmes, sur les enfants. Il y a des blessures par balles, des blessures par engins explosifs, énormément de traumas crâniens qui ont été mentionnés. Quand il s'agit d'engins explosifs, ça veut dire des amputations multiples, que ce soit sur des adultes ou des enfants dont l'éducation est certainement ensuite suspendue pour qu'ils puissent se soigner. Donc le CICR a par exemple réouvert trois maisons d'écoute dans le but de soutenir la population civile par rapport à l'utilisation d'artillerie et du trauma que les gens ont vécu en ville et dans les alentours.
Certaines ONG, les autorités congolaises, ont dénoncé l'arrestation de plus d'une centaine de blessés ou de gardes malades dans des hôpitaux à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Quelle est la situation de ces gens ? Est-ce que vous savez où ils sont ?
Ce qu'on peut dire, c'est que les autorités sont en mesure de rentrer dans les structures hospitalières. Elles doivent simplement respecter le droit international humanitaire et donc ne pas rentrer armées et respecter en fait l'avis médical du personnel, c'est-à-dire ne pas entraver le parcours de soins des patients présents dans les hôpitaux.
Après la destruction des camps de déplacés à Goma, où sont allés les centaines de milliers de déplacés qui s'y trouvaient ? Est-ce qu'ils ont encore accès à l'aide ?
Il y a effectivement beaucoup de personnes qui ont quitté les camps des déplacés qui étaient à Goma pour aller dans leur zone d'origine, leur zone de retour, que ce soit le territoire de Rutshuru ou celui du Massissi, par exemple. Et les équipes tentent de faire des évaluations afin de mieux comprendre la situation, les besoins et de pouvoir répondre à ces besoins. Pour la plupart, en fait, les gens retrouvent des maisons qui doivent rénover, voire reconstruire. C'est souvent des maisons en planches, ce qui veut dire que le bois a parfois été utilisé par les gens qui étaient restés pour se chauffer, ont servi de brancards dans des situations d'urgence pour évacuer les blessés. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, les affrontements ont été parfois tellement intenses que ça a détruit les lignes d'électricité, ça a détruit le réseau d'eau. Et c'est important pour nous, CICR, actuellement, de se focaliser là-dessus et d'essayer de remettre en place ces besoins essentiels-là, ce qu'on est déjà en train de faire à Saké, par exemple, qui est une ville d'environ 100 000 habitants.
Myriam Favier, merci.
Myriam Favier, chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge à Goma. Elle répondait aux questions d'Esdras Dikoumana. RFI, 8h54 à Paris, 6h54 en temps universel. Et on vous retrouve, Maman, dans la cour de récré. Maman, c'est le grand chambardement.
Oui, notre cher étant en cours de récré ne s'attendait pas à un tel début d'année 2025. Bien sûr, avec le retour dans le bureau ovale de Donald, l'homme à la peau orange, et le carré VIP, et le préau, et surtout, et le sud global, tous pressentaient que les choses n'allaient plus être comme avec Joe, le boss sorti du carré VIP, ex-bras droit de Barack, gentil papy qui sucrait trop les fraises. Mais personne n'avait imaginé le dixième du tsunami qui déferle en ce moment sur toute la cour de récré. Notre cher étant en cours de récré, avec son Groenland et son Donbass, son canal de Panama et sa bande de Gaza. Comme dirait un directeur d'institut de sondage, prenons très vite un cliché à l'instant T de notre cher étendre en cours de récré parce que tout est en train de changer. C'est le grand ménage de printemps. Dans le carré VIP et le préau, on est en train de bouger les meubles mieux et plus fort. On commence à réaliser que Donald, Make America Great Again, et son désormais complice, Vlad le Costaud, sont décidés à faire bouger les murs de la cour de récré comme à Yalta, comme à la conférence de Berlin il y a 140 ans. Jetons alors un coup d'œil à ce cliché de notre cours de récré à l'instant T comme tout de suite, T comme tadadam, parce que tout change en un clin d'œil comme un poste d'Elon sur X. Sur ce cliché, il y a juste quelques semaines, on avait ce paysage familier de notre cher et tendre cours de récré fossilisé pile poil à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec au centre de la cour de récré le carré VIP, toujours dominé par le locataire du bureau ovale et ses repéros Manu, le jeune homme de 43 ans, Kerr de London, Olaf le Viret, etc. En face, le préau, fief de Vlad le Costaud, Xi Jin, Maître Shaolin et leurs acolytes, Recep d'Istanbul, Hassan de Téhéran et Kim de Pyongyang. Carré VIP et préau se sont toujours regardés en chien de faïence, chacun jaloux de sa surface de réparation. Et juste entre les deux, le sud global, assis dans les tribunes, dans la peau d'un spectateur de tennis, regardant à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, comme un essuie-glace. Et ben, sous les coups de boutoir de Donald, je suis de retour et ça va faire mal, tout ceci est en train de voler en éclats. Le normalement boss du carré VIP a confirmé qu'il n'en voulait plus. Désormais, son pote, ben c'est le boss de la bande d'en face, Vlad le Costaud, celui contre lequel Manu, Kerr et toute la bande du carré VIP sont en fight depuis qu'ils squattent un coin du jardin de leur protégé Z de Kiev. Donald, sur qui tous comptaient pour leur défense, leur a dit de se débrouiller tout seul et que Z de Kiev n'a qu'à signer la paix avec Vlad sans lire le contrat. Pire, Donald a dit à Mette de Copenhague, membre du carré VIP, ben qu'elle sera obligée de lui céder le Groenland, sinon il le prendra de force parce qu'il a promis de rendre America Great Again. Les murs bougent, les amis. Dans le préau, le grand gagnant, ben c'est Recep d'Istanbul qui, après avoir été longtemps snobé par les gars du carré VIP, est au centre de toutes les dragues parce qu'il a réussi à être des deux côtés du Bosphore, dans le préau et le carré VIP en même temps. Quant au sud global, il compte les points en tribune, tout en sachant que tôt ou tard, veut ou pas, il devra descendre sur le court de tennis pour le tie-break. À demain.
Merci Maman et à demain. Vous restez avec nous sur RFI. À suivre, le journal international.
Salut, c'est Assalfo. Et revoilà le FEMIA. La 17e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo vous attend du 15 au 20 avril prochain à Abidjan et Daloa sous le thème civisme et sécurité routière. Cette année, vous aurez Angélique Kidjo, Caris, Smarty, Takana Zion, José, Imra et plein d'autres artistes pour mettre l'ambiance. Le FEMIA, c'est aussi le volet social avec l'inauguration des écoles primaires Magic System de Badika, Jacquesville et San Pedro.
En partenariat avec RFI. Anoumambo
est béni. C'est ça qui est la vérité.
Découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains-américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France.
Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
toujours plus, toujours mieux, se fixe-t-on trop d'objectifs dans la vie ?
Demain,
rediffusion de notre émission sur l'IA et la surveillance policière. Comment concilier liberté et sécurité ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
RFI,
ma sœur, t'es belle
la sélection
t'as
du mois.
T'as pas besoin de défriser. Beau et fort.
Dandy Gwell.
Autrefois, dire cette phrase me demandait des efforts. Invite-nous dans ta ville si tu veux péter le score.